Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, va-t-on pouvoir enlever le masque en intérieur et le pass vaccinal sera-t-il levé, tout cela à la mi-mars? Jean Castex, le Premier ministre, doit répondre dans les minutes à venir. Autre information politique du matin, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, les choses se précisent. Une lettre dans la presse régionale d'ici à demain sur ces deux sujets, Simon Le Baron, dans un instant. La guerre et cet appel du Quai d'Orsay aux Français qui vivent en Russie. Il est fortement recommandé aux personnes non essentielles de quitter le pays. Interprétation avec notre correspondant. En Ukraine, objectif la conquête de toute la côte le long de la mer d'Azov pour l'armée russe. Ville clé pour ça, Mariupol. Plus d'un million d'Ukrainiens exilés à l'étranger, 800 arrivés en France. Le bourdon de Notre-Dame et d'autres cathédrales européennes sonne à midi. Appel à la paix en cette mi-journée. Quel plan de résilience pour les entreprises et ménages les plus exposés au choc économique de la guerre? Là aussi, on attend Jean Castex. À 13h30, avec nos invités, comment parler de la guerre aux enfants et aux adolescents? Comment ça se passe chez vous? J'attends vos témoignages et questions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Et bien sûr, tous vos rendez-vous, c'est une chanson avec Frédéric Pommier, Le Feuilleton et Jean Lebrun pour le vif de l'histoire. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Du service politique de France Inter. Vous nous avez rejoint dès ce début de journal car deux informations importantes se précisent en cette mi-journée. La première concerne le Covid. Une partie des mesures de précaution va bientôt être allégée.
Oui, on en parlait ici même d'ailleurs hier ensemble, Bruno. Deux décisions qui ont été prises en conseil de défense hier et que va confirmer Jean Castex dans quelques minutes aux 13h de TF1 avec une date à retenir, le 14 mars, ce sont les informations que nous avons. On évoquait déjà hier d'ailleurs cette échéance de la mi-mars. Et ce jour-là, donc, le pass vaccinal sera supprimé et nous pourrons enlever le masque partout ou quasiment partout en intérieur, sauf dans les transports et dans les établissements médicaux. Ce sera donc une levée quasi totale des restrictions sanitaires. Une bonne nouvelle qui ne peut évidemment pas faire de mal aux presque candidat Emmanuel Macron.
Et très concrètement, le 14 mars, ça n'est pas lundi prochain, mais celui d'après. Autre information de ces dernières minutes, les conditions de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron se précisent, Simon.
Ce sera une lettre aux Français que le président va publier, va adresser à toute la nation, qui sera publiée dans la presse quotidienne régionale, demain matin en version papier, mais dès ce soir sur le web. Ces derniers jours, Emmanuel Macron et ses plus proches conseillers se sont beaucoup interrogés sur la bonne formule, comment se déclarer dans ces circonstances exceptionnelles, et c'est donc cette lettre qui a été retenue. Une façon grave, sobre d'entrer en campagne, nous dit son entourage. Le président se consacre aux affaires du monde. Il a encore parlé à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone. Le candidat n'a donc pas le temps, pas encore, d'entrer dans la bataille politique, d'où cette annonce au ton forcément solennel dans laquelle Emmanuel Macron veut aussi injecter une bonne dose d'optimisme. Paradoxalement, ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire en Europe redevient tragique. Ça, c'est ce qu'il disait en 2018. On peut dire, Bruno, sans trop s'avancer, que c'est une phrase qui résume bien la tonalité de sa future campagne et de cette lettre qui sera donc publiée dans quelques heures.
On récapitule les deux chapitres vers une levée du masque en intérieur, c'est-à-dire dans les commerces et dans les entreprises, le 14 mars, pas dans les transports et pas à l'hôpital. Et pour Emmanuel Macron, une entrée en campagne via une lettre aux Français dans la presse régionale dont on devrait avoir des échos dès ce soir et des détails demain matin.
Je vous ai bien suivi. Probablement, vous avez tout résumé, Bruno, bravo.
Bon, et on suit Jean Castex et évidemment, on vous donne des informations encore plus précises si elles arrivent. L'Ukraine, il reste environ 400 Français dans le pays. Ils étaient un millier en début de semaine. Vous avez fait le calcul, quelques 600 Français sont sortis ou sont en cours de sortie. C'est la précision qu'a donné le Quai d'Orsay ce matin. Mais ce n'est pas seulement en Ukraine que les Français ne sont pas totalement en sécurité. En Russie, manifestement non plus, il va falloir expliquer cela. Depuis ce matin, il est fortement recommandé à ceux dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays. 5000 Français sont répertoriés comme vivant en Russie. Il y en a probablement plus en réalité. On retrouve notre correspondant Sylvain Tronchet dans un instant pour expliquer ce message du Quai d'Orsay. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, témoignage. Depuis quelques jours déjà, les grandes entreprises françaises leurs expatriés. Franck Ferrari, lui, est professeur au lycée français de Moscou et l'ULR, conseiller des Français de l'étranger, joint par Sylvain Tronchet, justement.
C'est un petit peu la panique, mais surtout une demande d'information très forte. Par exemple, qu'est-ce qui a changé entre hier soir et ce matin? Que veut dire le personnel essentiel ou pas essentiel? Le problème, c'est que tout le monde n'est pas expatrié. C'est-à-dire qu'on n'a pas des boîtes derrière pour payer des billets. Aujourd'hui, on vient de m'envoyer à Moscou, Istanbul en avion, c'est 3 000 $ le billet. Donc, si on est une famille, ceux qui étaient installés depuis longtemps, c'est pas aussi simple de partir comme ça en une semaine. Je suis propriétaire d'un appartement, j'ai un crédit, je reviens sur le problème économique, et qu'est-ce que je vais faire en France? Où je vais atterrir? Souvent, ils sont là depuis 10, 15, 20 ans, ils n'ont pas de point de chute, entre guillemets, où il faut le préparer, quoi. Ça ne se fait pas aussi simplement que ça, quoi. Ça perturbe beaucoup de gens, ça panique même des gens.
Franck Ferrari, que vous avez interviewé ce matin, Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Bruno.
En direct de Moscou, il est donc fortement recommandé à ceux dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays. Comment interprète-t-on ce message du Quai d'Orsay, Sylvain ?
Disons qu'on peut évaluer que dans le langage Quai d'Orsay, cela signifie qu'il n'y a pas de danger immédiat. Hein. On ne prononce pas le mot évacuation, par exemple. On recommande aux gens de partir, mais de partir par leurs propres moyens, sachant qu'actuellement, et comme l'a expliqué ce témoin, hein, quitter la Russie en avion, ça veut dire passer par Belgrade, Istanbul ou Yerevan en Arménie, et il n'y a pas de vol disponible avant samedi au mieux. On peut aussi partir par la route, via l'Estonie ou la Finlande, mais là aussi, ça prend du temps, donc on n'est pas dans une situation d'urgence au sens de l'analyse des autorités françaises. Ceci dit, de nombreux expatriés ont déjà commencé à quitter le pays. J'ai pu le constater, hein, d'après les informations que j'ai, des sociétés qui sont présentes ici, des sociétés françaises comme Michelin, Saint-Gobain, Safran, rapatrient leur personnel depuis déjà au moins 3 jours. Pour vous donner un exemple personnel, hier je suis allé à la banque chercher de l'argent, ce qui est un peu un sport national ici actuellement. J'ai croisé le cadre d'une grande société française qui lui aussi venait faire un retrait. Puis en discutant avec lui, j'ai réalisé que lui, en fait, il venait vider ses comptes. Ceux qui partent le font extrêmement rapidement. Les autres, pour l'instant, s'interrogent.
Sylvain Tronchet, correspondant essentiel de France Inter en Russie, en direct avec nous. J'ajoute que, toujours en Russie, la radio Écho de Moscou, empêchée de travailler dans les faits, a décidé de se dissoudre. À Moscou et Saint-Pétersbourg, à nouveau, des dizaines de manifestants anti-guerre ont été arrêtés hier. Et puis, effet des sanctions économiques internationales, le rouble est un plus bas historique face au dollar et à l'euro. Les agences de notation financière Fitch et Moody's qualifient désormais l'investissement dans la dette russe de il la classe dans la catégorie spéculative, autrement dit très très peu sûre. Au 8e jour de guerre, le cercle est en train de se refermer autour de Kiev. Les Russes touchent une série de villes nord-est, est-ouest à 150 km de la capitale. Kharkiv, la deuxième ville du pays, 1 400 000 habitants, complètement à l'est, tout près de la Russie, a de nouveau été visé cette nuit. Et puis il y a le front sud. Les Russes vont-ils faire la jonction entre d'un côté le Donbass et de l'autre côté la Crimée, ce qui leur assurerait la maîtrise de toute la côte le long de la mer d'Azov, l'entrée dans la mer Noire. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour Bruno.
Un des envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine avec Laurent Maketti. Une ville clé de ce point de vue sur la côte, c'est Mariupol, Boris.
Oui, et la ville est actuellement encerclée par les Russes, c'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. Ce que l'on peut voir, ce dont on est à peu près sûr, c'est que des combats sont en cours à Mariupol. Un incendie actuellement en ce moment dans un grand centre commercial avec des images impressionnantes de panache de fumée noire. Plusieurs bâtiments publics, dont des écoles, ont été touchés par des frappes russes selon les médias locaux. Et puis des navires russes positionnés en mer d'Azov qui attendent que Mariupol tombe pour leur permettre d'acheminer des troupes par la mer. Cette ville, qui est aussi capitale pour les forces russes au sol, vous l'avez dit, si Mariupol tombe, les Russes opèrent cette jonction de leurs troupes, jonction entre ces forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes du Donbass. Et puis, pour parler des autres affrontements en cours du côté de Kiev, l'essentiel des combats au sol se déroule dans des petites communes, à quelques kilomètres de Kiev, dans la banlieue plus ou moins lointaine, avec des villages qui sont pris par les Russes, récupérés par les Ukrainiens. Une situation donc très instable sur place. Autre point central de la guerre, Kharkiv, la deuxième ville du pays, avec encore des combats qui font rage sur place et la présence au sol de troupes qui ont été aéroportées par les Russes. Au moins 4 personnes tuées, 9 blessées dans des bombardements. Et puis des vidéos montrent de très importantes destructions de bâtiments résidentiels à Izioum, c'est au sud-est de Kharkiv. 8 personnes, dont deux enfants tués selon un responsable politique local. Et ce matin, l'armée russe a également annoncé la prise de la grande ville de Kherson. Des responsables ukrainiens l'ont confirmé.
Eh bien, Kherson, c'est là que nous allons. Merci Boris Loumagne en direct de Lviv en Ukraine avec Laurent Maketti pour France Inter. Les Russes semblent bien, bel et bien avoir pris le contrôle de Kherson. Près de 300 000 habitants, ville très disputée depuis le début du conflit, déjà annexée par la Russie en 2014. Écoutez ce témoin, René Barotin, il est originaire de Vendée, il a 72 ans. On l'a déjà entendu hier à la mi-journée. Il est bloqué sur place depuis une semaine. Il nous raconte ce qu'il voit depuis sa fenêtre.
Je suis dans un appartement en face de la préfecture de région, c'est l'oblast de Kherson. Hier, il y avait les tanks, les chars qui étaient sur la place. Et ce matin, les chars sont partis, tout est parti. L'administration russe est arrivée et ils sont là, ils sont avec une vingtaine de voitures particulières, des gros 4x4, plein de poussière, on voit qu'ils viennent de Crimée, quoi, hein, certainement. Donc ils sont là. Tout est calme, les gens ont fait leurs courses ce matin. Moi, j'ai fait mes courses, mais très peu de gens, hein. Il y a très peu de gens qui restent. Voilà, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de résistance de l'armée. Est-ce qu'ils se sont rendus? Je pense.
Et vous, René, là, vous n'avez pas peur?
Non, j'ai pas peur. Et je vais même aller négocier avec les Russes. Je vais essayer d'aller voir s'il y a possibilité de nous laisser partir un corridor humanitaire ou je sais pas. Donc je vais y aller tranquillement. J'ai amené mon passeport surtout pour négocier ou au moins discuter.
René Barotin, ce Français coincé à Kherson avec Ajra Mohammad. Nouvelle séance de pourparlers entre Ukrainiens et Russes aujourd'hui en Biélorussie, côté frontière polonaise. La délégation ukrainienne est en route pour ces négociations avec les Russes. C'est ce qu'affirment les autorités à Kiev. Comme toutes les guerres, la communication est un aspect de la bataille. Les États-Unis alertent sur un coût humain d'ores et déjà ahurissant, sans donner beaucoup de détails. Des centaines, sinon des milliers de civils tués, selon le chef de la diplomatie Anthony Blinken. Son homologue français Jean-Yves Le Drian redoute que le pire soit devant nous à propos de cette guerre. Il redoute que la logique de siège déjà employée par les Russes en Syrie et Tchétchénie se reproduise en Ukraine. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, faisait un point sur la situation humanitaire ce matin. Détail avec vous, William Gay-Costa.
Avant le début de l'invasion russe, la situation sanitaire des enfants d'Ukraine était déjà préoccupante, avec par exemple une résurgence de la polio ou de la rougeole. L'UNICEF essayait déjà d'y remédier, mais comme l'explique le directeur régional adjoint pour l'Europe, Philippe Corrie, le début de la guerre a réduit ses efforts à néant.
Les bombardements ont commencé à s'intensifier, et donc ça a déstabilisé bien entendu cette campagne. Donc c'est clair qu'il y a un impact direct sur les vaccins, donc c'est très concret.
Mais au-delà de la santé physiologique, c'est bien les questions de santé mentale des enfants ukrainiens qui inquiètent l'UNICEF.
Vous avez aujourd'hui en Ukraine 7,5 millions d'enfants traumatisés. Les effets à long terme de cette situation seront là pour longtemps, et donc cette intervention immédiate maintenant sont vraiment, vraiment importantes.
Alors malgré la situation sur le terrain, l'UNICEF tente de maintenir sa prise en charge.
Avec les bombardements, on a les équipes mobiles de psychologues qui vont dans les abris où des familles se protègent pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Dans ces situations-là, c'est pas facile parce que les bombardements continuent. Donc, c'est ce genre de choses qui sont particulièrement utiles dans ces situations.
Mais pour pouvoir pérenniser toutes ces actions essentielles, l'UNICEF estime qu'il lui faudra plus de 400 millions de dollars, rien que pour les trois prochains mois.
Hier, le procureur pénal international a annoncé ouvrir une enquête pour crimes de guerre contre la Russie. 44 millions d'habitants dans le pays, plusieurs millions ont déjà dû quitter leur maison et aller ailleurs au sein de leur pays. Et plus d'un million, selon l'ONU, sont exilés au-delà des frontières. Plus de la moitié en Pologne, viennent ensuite la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie, puis la Roumanie. Plus de 50 000 réfugiés. Envoyé spécial de France Inter en Roumanie, Mathilde Dehimi.
Il y a des noms à ne pas prononcer devant Johan, 74 ans.
Poutine, il n'a pas honte qu'on l'envoie au tribunal international.
Les plus anciens de Rodots revoient aujourd'hui à la télé ce qu'ils ont vécu enfant. L'accueil de réfugiés fuyant à l'époque les chars soviétiques. Corina, 57 ans.
On a peur du lendemain, car les Russes ont toujours lorgné nos frontières. Mes parents ont vécu l'invasion soviétique de 1944 et ce ne sont pas de bons souvenirs.
Elle s'inquiète de voir l'avancée actuelle de l'armée russe. Édouard, 18 ans, est lui surtout résigné.
S'il faut aider, je ferai ce qu'on me dira. Les Russes ne viendront pas. Si c'est le cas, il n'y aura rien à faire.
tous se sentent protégés, pour l'instant, précise-t-il. L'histoire se répète, dit Daniel Renchuk, à un détail près.
On est membre de l'OTAN et Poutine ne va pas prendre le risque d'une agression de la Roumanie. Sans l'OTAN, je suis sûr que l'on serait aussi victime de cette agression.
Sur la frontière, côté ukrainien, les sirènes retentissent de plus en plus fréquemment.
On a créé une unité que je n'ai pas vue depuis très longtemps, dit le premier vice-président de la Commission européenne, Frank Timmermans, ce matin sur France Inter. Interview à réécouter sur franceinter.fr. L'unité de l'Europe sur cette question des réfugiés ukrainiens tiendra-t-elle? Des discussions se tiennent entre ministres de l'Intérieur sur un niveau européen de protection aux exilés venus d'Ukraine. Est-ce qu'il sera réservé aux personnes de nationalité ukrainienne ou aussi à ceux qui viennent de ce pays mais ne sont pas ukrainiens? Cela fait partie des questions. En France, le rythme des arrivées d'exilés s'accélère. Une partie ne sont que de passage dans notre pays. Quelques dizaines de personnes, disait hier sur France Inter le directeur général de l'Office français de l'immigration. Ce matin, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était notre invité.
Aujourd'hui, nous avons 800 Ukrainiens qui sont arrivés depuis le 25-26 février sous le sol français, parfois pour être en transit vers l'Espagne notamment ou vers l'Angleterre. Donc il y a peu de personnes, il n'y a pas une grosse communauté ukrainienne en France, 17 000 Ukrainiens qui ont un titre de séjour par exemple, il y a des grosses communautés ailleurs en Europe. Cependant, évidemment, comme l'a dit le président de la République, la France prendra toute sa part. Et donc j'ai décidé de réunir chaque semaine désormais les préfets pour organiser cet accueil qui est digne évidemment du message du président de la République et de la France.
Gérald Darmanin ce matin sur France Inter avec Alexandra Ben Saïd. Des dizaines d'Ukrainiens se sont par exemple présentés à Calais, une partie voulant aller en Angleterre. Et toujours selon le ministre ce matin, Londres est prêt à installer une sorte de consulat britannique dans la ville française pour faciliter la délivrance de visas. Ailleurs en France, parmi les particuliers qui s'organisent pour accueillir des exilés, ce reportage de Mathilde Imberti près de Lyon, alors qu'ils arrivent, femmes et enfants, en car.
Deux jours de périple, trois pays traversés et enfin Saint-Pierre-de-Chandieu.
Un bonheur, mais c'est beaucoup d'émotion.
Marie-France Martin ouvre sa maison à une mère et ses deux enfants.
Pendant la guerre de 39-45, on a vu arriver ici à Saint-Pierre-de-Chandieu des réfugiés qui fuient à la ville de Lyon et tout. Et je me suis dit, mais maintenant, comment c'est possible ça?
49 Ukrainiens sont arrivés ce matin. Le lien s'est fait par l'association Les Petits Souliers qui, chaque année, reçoit l'école de danse de Lviv. Sa présidente, Anne-Marie Galeda.
C'est sûr qu'on a l'habitude de les accueillir, mais là c'est un drame. Les mamans sont complètement anxieuses. Elles ont laissé leur mari, elles ont laissé leurs parents.
Les tout-petits serrent leurs doudous, les yeux rougis. Les adolescents essayent de sourire. Ils remercient Julia et Victoria, arrivées seules.
Only with my sœur.
On est entre sœurs. Notre père est militaire, il doit rester.
He must stay with them. In my city, it's
dans notre ville, pour l'instant, ça va, mais ailleurs, c'est horrible.
So bad.
Olena a pris la route de l'exode avec ses quatre enfants, le plus jeune a 2 ans.
C'est 3 fois par jour, on entend une sirène qui dit qu'il faut se cacher. Et les gens sont très énervés et les petits-enfants, ils peurent.
On se quitte provisoirement en reprenant l'hymne du pays. Combien de jours resteront-ils ici? Tout le temps qu'il faudra, répondent sans hésiter les familles d'accueil. Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône, Mathilde Imberti, France Inter.
Pendant que des Ukrainiens fuient vers l'ouest, les autres mouvements migratoires continuent en direction de l'Europe. 1200 personnes ont essayé d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Selon la préfecture, quelques 350 sont parvenus à rentrer. 800 en 2 jours. Les conséquences économiques de la guerre, le prix du pétrole grimpe inexorablement. Le baril de référence aux États-Unis à plus de $115, en Europe à près de $120. À Caen, le samplon 95 ou même le gazole à 2 euros. On est à 1,8 pour le premier, 1,7 pour le second au dernier relevé. Mais cela reposait sur un baril à moins de $100. Ça va donc encore grimper. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Hier soir, Emmanuel Macron a promis un plan de résilience pour les entreprises et ménages les plus touchés par cette hausse. Là aussi, Jean Castex doit en dire plus dans les minutes à venir. Quels sont les secteurs économiques les plus menacés, Fabien?
Alors, il y a d'abord les industries qui utilisent directement les hydrocarbures comme matière première. Les filières chimiques et pétrochimiques, la hausse des cours du baril a pour elles un impact très direct sur les coûts de production. Pour prendre un exemple, la production d'ammoniac, elle-même à la base d'engrais azotés, dont le client final est l'agriculture, de quoi nourrir en cascade l'inflation des prix alimentaires en bout de chaîne pour les consommateurs que nous sommes. La hausse des cours du pétrole pétrole a aussi des conséquences sur celle du gaz, qui est en partie indexé dessus, et donc sur l'électricité, fabriquée notamment par des centrales thermiques qui tournent au gaz ou au charbon, dont les cours flambent aussi. Conséquence, toutes les industries, vous savez, dites électro-intensives, sont durement frappées. Les fabricants d'aluminium, par exemple, qui produisent par électrolyse, ou encore en amont de la filière construction, les cimentiers qui font tourner leurs fours au charbon, au pétrole ou au gaz, qui essaieront forcément de répercuter les hausses de prix à leurs clients finaux.
Parmi les grandes entreprises françaises sous pression, Technip, dans le secteur de l'énergie, Technip qui exerce en Russie, l'entreprise comme Total dit renoncer à toute nouvelle opportunité commerciale, pas de nouveaux projets en Russie. Chez Technip, on estime que près d'un quart du carnet de commandes est lié à des projets en cours d'exécution dans le pays. Quand le ministre des Affaires étrangères affirme que le pire est peut-être devant nous, cela ne rassure pas beaucoup. Quand le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ce matin parle du nucléaire et accuse l'Occident de penser à la guerre nucléaire, c'est la même chose. Faut-il rappeler que dimanche, Vladimir Poutine annonçait mettre en alerte la force de dissuasion russe. Ce climat angoissant, on envoie une marque en Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes. Les demandes de pastilles d'iode se multiplient dans les pharmacies landaises. Ces cachets sont donnés à titre préventif pour protéger la thyroïde en cas de catastrophe nucléaire. Julien Morcelli, France Bleu Gascogne.
Des clients qui appellent pour savoir si les pharmacies délivrent bien des pastilles d'iode. Depuis quelques jours, c'est devenu le quotidien de Jean Wattier, conseiller à l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
On a vu depuis ces derniers jours une recrudescence des demandes de pastilles d'iode dans les officines. Ces pastilles d'iode sont demandées en grande partie à cause du conflit en Ukraine et des risques effectivement qu'il peut y avoir par rapport à une attaque nucléaire. C'est toujours lié à un stress. Là, on retrouve un peu ce que l'on a connu pendant la pandémie. Par contre, il faut dire quand même que c'est pas la peine d'aller dans les officines. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. C'est quelque chose qui sera distribué par les pouvoirs publics.
Les pharmaciens peuvent bien être amenés à distribuer des pastilles d'iode, mais uniquement aux Français qui habitent à moins de 20 km d'une centrale nucléaire. Ça concerne environ 2 millions de personnes. Elles les récupèrent gratuitement avec un justificatif de domicile. Dans les Landes, il n'y a aucune centrale nucléaire, donc aucune distribution. Ces pastilles sont produites par l'armée. Les pharmacies n'ont aucun moyen d'accélérer la production. En revanche, elle pourrait être associée si l'État décidait d'une distribution généralisée. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Et l'ONU, ce matin, ces phrases, la menace nucléaire pèse sur l'ensemble de l'humanité. Voilà qui n'est pas de nature à rassurer. Tout à l'heure, avec nos invités, nous parlerons de ce sujet. Comment parler de la guerre aux enfants et aux adolescents? J'attends vos questions sur ce thème. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir. Et puis l'un des sons marquants de cette journée à propos de cette guerre en Ukraine, c'était ceci à midi exactement. Pendant 7 minutes, comme autant de jours de guerre déjà passés, les cloches de plusieurs cathédrales européennes ont résonné en signe d'appel à la paix. Le bourdon de Notre-Dame notamment. Bonjour Manon Vautier-Cholet.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous étiez devant Notre-Dame au moment où le bourdon a sonné.
Et vous le disiez, les cloches ont donc sonné pendant 7 minutes. Dès les premiers coups, le parvis de la cathédrale est devenu totalement silencieux. Tamari est née en Géorgie, elle a connu la guerre dans son pays et elle pense aujourd'hui aux jeunes Ukrainiens qui prennent les armes pour se défendre.
Comme tout le monde, je salue leur courage. Je ne sais pas si j'en aurais eu, ce courage-là. C'est un courage que beaucoup n'auraient pas à l'heure actuelle. Et puis on n'a pas à avoir ce courage-là parce qu'on n'est pas préparé à ces guerres-là, finalement.
Tamari qui s'inquiète aussi pour son pays d'origine, voisin de la Russie. Ici à Paris, 7 minutes de bourdon, donc une minute pour chaque jour de guerre passée en Ukraine depuis l'invasion russe. Robert est resté un long moment devant Notre-Dame, il habite juste à côté.
Quand j'ai su qu'on ferait sonner le bourdon Emmanuel pour la paix, comme toutes les cathédrales d'Europe, enfin celles qui sont encore libres, je me suis dit que ça valait la peine de venir.
Le recteur de la cathédrale était là aussi. Patrick Chauvet a tenu à répondre à cet appel à la solidarité lancé par l'Association européenne des cathédrales, un appel à la paix aussi.
C'est un geste de solidarité avec les Ukrainiens, mais aussi avec tous les blessés, les morts, les familles, les exilés.
Les cloches qui ont donc résonné au même moment à Dijon ou encore à Limoges en France et dans de nombreuses autres cathédrales européennes également.
Manon Vautier-Cholet en direct du quartier de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec Fabien Gosset pour les moyens techniques.
France Inter, le 13-14.
Bruno Duvic.
En vous rappelant une des informations que nous donnait Simon Le Baron au début de ce journal, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, une lettre aux Français dans la presse régionale entre ce soir et demain. Et c'est lundi à midi que Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, présentera la liste officielle des candidats à l'élection. 11 ou 12, le seul pour lequel il reste un doute sur le parrainage, c'est Philippe Poutou. Et ces candidats passent au Salon de l'agriculture. Ce matin, Laurence Perron, c'est Yannick Jadot qui a fait son tour.
Flatter des croupes, avaler du fromage au kilo, se laver le gosier au vin rouge, pas tellement le genre de Yannick Jadot. Le candidat costard-cravate est sérieux, concentré sur ses sujets.
Le changement de modèle, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Personne n'a jamais dit ça. Il faut accompagner les paysannes et les paysans. C'est de la formation, c'est de l'accompagnement. D'assumer le... On va laisser Wauquiez.
Oui, Laurent Wauquiez, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fait le show au stand d'à côté. C'est l'équipe du candidat qui a réglé au millimètre la déambulation, ne l'avait pas prévu, parce que la crainte était effectivement qu'il soit accueilli avec des fourches. Ce n'est pas le cas, même si, comme Bertrand, agriculteur normand, nombre de paysans estiment qu'écologie rime avec agri-bashing.
Alors qu'est-ce qu'il fait pour l'agriculture ? Parce qu'il est trop écolo, justement, pas assez pragmatique à mon goût.
Et ça veut dire quoi être trop écolo ?
Aller trop dans l'excès sans être forcément dans un système économique viable.
Tiens, François Hollande vient d'arriver. Un conseil pour la gauche ?
Je n'aurais trop à donner, donc pour l'instant, je préfère les garder pour moi.
Pendant ce temps, Yannick Jadot s'autorise un petit punch au stand des Antilles, mais peu de chance qu'on le voie esquisser un pas de danse.
Laurence Perron au Salon de l'agriculture avec Benjamin Thuo. Sophie Becherel, vous nous avez rejoint dans ce studio pour développer et redonner à nos auditeurs une des informations qu'on donnait au début de ce journal vers une levée du masque assez large en intérieur le 14 mars et vers une levée du pass vaccinal également, Sophie.
Oui, et cela s'explique parce que depuis plusieurs semaines, les indicateurs sont en baisse, que ce soit le nombre de cas, le nombre d'entrées à l'hôpital, de personnes en réanimation ou de décès. La décrue est frappante. Ces dernières 24 heures, par exemple, moins 26% d'hospitalisation et depuis janvier, c'est 10 fois moins de cas par jour que l'on enregistre. Alors c'est vrai que le taux d'incidence est encore assez haut, aux alentours de 500 pour 100 000 habitants, mais les autorités parient sur le fait que d'ici 10 jours, ça ira encore mieux. Peut-être aura-t-on atteint les 1500 personnes en soins intensifs au lieu des 2500 actuellement. Mais il y a plusieurs faits. Omicron est un variant moins agressif que les précédents et la couverture vaccinale est bonne, près de 80% de la population. Alors la fin du pass vaccinal et du port du masque en intérieur, ça ne va pas concerner les gens qui prendront des transports ou les EHPAD, oui. Mais à l'école, au travail, dans les magasins, dans les administrations, fini les visages à demi cachés. Et puis, pour 4,1 millions de Français non vaccinés, cette décision va aussi changer la donne.
Et à l'instant, Jean Castex le confirme, le pass vaccinal sera suspendu le 14 mars, pas lundi prochain, mais celui d'après, et donc vers une levée du masque dans les commerces, au travail, dans les écoles, mais pas dans les transports ni à l'hôpital. Voilà ce que l'on peut dire à ce sujet. On continue de suivre l'intervention de Jean Castex. Une toute dernière information avant la météo, vous dire que Verstappen prolonge son contrat, c'est de la Formule 1, avec Red Bull jusqu'en 2028. Il est 13h27.
Chaque région est une terre de lait. Présent dans 90% des départements français, que nous soyons éleveurs de vaches laitières, chauffeurs qui collectons chaque jour le lait dans nos campagnes, chefs de fabrication en laiterie ou encore fromagers à la coupe ou dans les caves d'affinage, nous sommes au plus près de vous. Mais ce n'est pas tout. Avec nos savoir-faire, nous nous engageons à vous offrir des produits laitiers de qualité pour vous nourrir aujourd'hui et demain. Retrouvez-nous sur vos marchés, dans vos rayons et sur franceterredelait.fr.
Après le succès mondial de L'Amie prodigieuse, le nouveau roman d'Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, vient de paraître en poche. Elena Ferrante nous emmène à Naples, à la rencontre de Giovanna, une adolescente qui va faire l'apprentissage de la vie adulte et du secret qui entoure sa famille. La vie mensongère des adultes, un roman éblouissant par Elena Ferrante, maintenant en poche chez Folio.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
De la pluie sur la façade ouest, Sébastien.
Oui, une perturbation atlantique tente de faire une incursion, mais elle n'arrive pas vraiment à s'enfoncer sur le pays. Les pluies qui touchent la Bretagne actuellement vont lentement glisser vers la basse Normandie et les pays de la Loire, avec quelques débordements pluvieux également entre la Charente-Maritime et les Pyrénées-Atlantiques. Les nuages de cette perturbation vont s'étendre un peu plus sur l'Hexagone jusqu'au Pas-de-Calais, à l'ouest de la Bourgogne et à la Nouvelle-Aquitaine. La couche nuageuse nuageuse ne sera pas compacte et quelques trouées se dessineront. Les éclaircies seront plus franches en allant vers les frontières de la Belgique et les régions de l'Est avec un soleil généreux sur l'Alsace, le Jura, les Alpes et autour du Golfe du Lion. Le soleil fera aussi quelques apparitions sur le Finistère. En revanche, sur la Corse et le long de la Côte d'Azur, l'après-midi sera bien nuageux avec même des risques d'averses et un peu de neige sur les hauteurs de la Corse. L'ambiance, elle, sera adoucie un peu plus cet après-midi. Hormis sous les pluies du quart nord-ouest, les températures maximales seront assez homogènes, variant entre 11 et 18 degrés avec 14 degrés pour Lille, Paris, Mulhouse, Bordeaux, Nice ou encore Bastia.
Merci Sébastien Léas, Météo France. Bientôt 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Et jusqu'à 13h45, nous voudrions parler avec vous de cette question qui occupe sans doute la maison. Comment parler de cette guerre en Ukraine avec les enfants et les adolescents? Deux invités pour le faire. Bonjour Antoine DeVos.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier de Bayeux, membre du conseil scientifique de l'école des parents et des éducateurs. Et bonjour Pauline Leroy.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien, un journal qui s'adresse aux 6-10 ans et déjà pas mal d'appels au standard. Alors on y va tout de suite. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, moi je suis maman de 3 enfants, 11 ans et 10 ans. Et en fait, voilà, ils témoignent et ils parlent de la guerre et de ce qui se passe. On ne leur montre pas trop les images, mais par contre, on écoute un peu la radio. Néanmoins, ils en parlent aussi à l'école, mais ils se posent des questions, à savoir pourquoi cette guerre, pourquoi le président russe agit comme ça, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qu'il décide et comment se font les choses. Et aussi, voilà, les armes, pourquoi tel pays envoie des armes, l'armée, etc. Donc, oui, ils s'interrogent un peu sur le sujet, mais par contre, ils nous évoquent moins le fait que ça puisse arriver ici, chez nous, dans notre pays.
Merci pour cette intervention, Antoine DeVos. Je retiens plusieurs choses de ce que nous dit Marie. D'abord, elle dit, on ne montre pas d'image, on écoute la radio. On a affaire à des enfants de 10 et 11 ans. Est-ce que c'est une bonne piste?
Alors, c'est vrai que tout de suite, le poids des mots... Et ce que nous font les mots est différent de ce que nous font les images.
Oui.
Une des difficultés, en effet, c'est de comment ne pas rester choqué, sidéré par les effets des images que l'on peut voir. Lorsqu'on voit des visages souffrants, lorsqu'on voit des corps parfois mutilés, lorsqu'on voit des personnes qui sont dans des situations extrêmement périlleuses ou des bâtiments éventrés, on voit parfois des images de ruines qui sont de dévastation qui ne sont pas sans effet sur ce que l'on peut ressentir. Et donc toute la difficulté, on pourrait dire, un des enjeux, à mon avis, concernant le soutien que l'on peut apporter aux enfants, est de réussir à faire passer des images au récit. Alors la radio, elle a l'avantage
Je peux me permettre, Antoine DeVos, est-ce qu'il y a un âge en dessous duquel vous dites « pas d'image » pour donner un repère? Ou c'est compliqué peut-être.
C'est compliqué. On sait que plus les enfants plus jeunes ils sont, moins ils ont la capacité de pouvoir recevoir et de pouvoir traiter, surtout assimiler les images. Toute la difficulté, c'est de pouvoir digérer quelque chose qui est digeste, en fait. Quand on a des images qui sont choquantes, on est choqué et donc on n'a plus la capacité de pouvoir penser.
Oui.
Donc c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur la mise en récit, les mots, le texte, le contexte, de façon à inscrire, et je crois que c'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire de réussir à inscrire ce que les enfants, en fait, tout de suite, ces enfants appellent, c'est comment on peut inscrire ces histoires-là, ces mots-là, dans une histoire qui est plus grande, c'est-à-dire dans des conflits géopolitiques qui sont pas d'hier, qui sont pris dans des histoires relationnelles, qui sont donc politiques, qui sont très complexes.
Essayez de mettre ça dans une trame, et ce qui permet de, évidemment, quand il y a des questions, on y répond, on ne laisse pas les questions sans réponse, j'imagine.
Voilà, avec aussi, on a le droit de dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses vont arriver.
On peut dire je ne sais pas.
Je crois que c'est important que les adultes puissent s'autoriser à partager leurs inquiétudes, les peurs par lesquelles ils sont traversés. C'est-à-dire que l'enfant peut s'appuyer sur la reconnaissance que les adultes ont de leurs émotions.
Pauline Leroy, il y a aussi un élément de réponse dans une édition à venir du Petit Quotidien que vous avez eu la gentillesse de nous passer avant. C'est l'édition du 5 mars. Il y a un petit encadré à la une. Alors d'abord, il y a un dessin où on essaye d'abord de passer par le dessin. Et puis un petit appel, enfant, ne lis pas ce numéro plus difficile que d'habitude tout seul. Fais-toi aider par un adulte. On ne laisse pas l'enfant seul, que ce soit face à des images, des mots ou des questions sur cette guerre.
Oui, nous, au petit quotidien, on s'adresse à un public d'abonnés en général. Donc, oui. On arrive quand même chez des familles et dans des écoles où il y a eu une démarche de venir chercher un support d'actualité. Oui. Mais pour autant, cette actualité en ce moment est quand même tellement particulière qu'on conseille aux enfants de ne pas lire leur journal tout seul, ce qu'ils sont capables de faire tout le reste de l'année sur tous les autres sujets qui sont en général beaucoup plus légers. Oui. Là, on leur conseille en effet de se faire accompagner, parce que nous, on fait un contenu journalistique qui s'adresse du coup à une masse d'enfants. On ne peut pas, nous, anticiper la réaction de chaque enfant individuellement, selon ses émotions, l'histoire de sa famille, sa propre personnalité. Chaque enfant va recevoir ce type d'information différemment. Et là, il n'y a que des gens de la famille qui peuvent l'aider, en fait.
Et je note que vous passez pas mal par le dessin, hein.
Oui, au petit quotidien, c'est notre façon de traiter finalement toutes les informations, mais c'est encore plus important sur des sujets qui sont comme ça très difficiles et très angoissants. C'est qu'en fait, il faut justement rendre l'information digeste. Donc, on passe par pas mal d'astuces, entre guillemets, et le dessin en fait partie. Sur le premier numéro qu'on a fait cette semaine pour vraiment expliquer les bases presque géopolitiques du conflit, on est aussi beaucoup passé par la carte. Moi, j'ai pensé que c'était très important que pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, de tout simplement visualiser sur une carte du monde la position de l'Ukraine, qui a les pays occidentaux à sa gauche et la Russie à sa droite. Oui. Voilà. Donc, en effet, le dessin, la carte, l'infographie, c'est des éléments qui sont très utiles pour nous, pour rendre l'information compréhensible pour des petits de 6 à 10 ans.
Et quelques extraits de cette édition à venir. À cause de la guerre, tu ressens peut-être de la peur, de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse. Si tu as mal au ventre, si tu fais des cauchemars, si tu as envie de pleurer, c'est normal. Même les adultes sont stressés. Pour te soulager, ne garde pas ces émotions pour toi. Parle-en dans ta famille ou à l'école. Écris, dessine ce que tu ressens et pose les questions qui t'angoissent. Aucune d'elles n'est bête. Samaël, au standard. Bonjour Samaël.
Oui, bonjour.
Vous avez une fille de 9 ans, je crois.
Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai une fille de 9 ans, une fille de 4 ans. Oui. Et hier, ma grande de 9 ans m'a demandé un peu de but en blanc si c'était d'accord pour qu'on accueille des Ukrainiens. Elle était prête à leur laisser la chambre, qui est la seule chambre qu'on a dans notre maison qui est en travaux actuellement. Et je me suis retrouvée à devoir lui expliquer que ça allait sûrement pas être possible parce qu'on n'avait pas les bonnes conditions d'accueil. Elle m'a demandé ce qui était possible de faire pour aider, pour pas rester sans rien faire. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et même si, comme vous le disiez juste avant, c'est OK des fois de dire je ne sais pas, là j'aimerais vraiment pouvoir lui apporter une réponse parce que moi-même, je n'ai pas envie de répondre on ne peut rien faire.
Antoine Devos, qu'est-ce qu'on peut répondre à Samaël? Je sens un peu de, comment dire, d'angoisse dans la voix de cette maman.
Bah, déjà, je trouve que, en fait, ce que vous soulignez, ce qu'elle souligne, c'est vraiment l'impuissance, en fait, à laquelle on est confronté lorsqu'on est surpris, désarçonné, bouleversé par ce qui se passe et par ce qu'on entend, par l'anticipation aussi, parce qu'évidemment là il s'agit finalement d'anticiper sur ce qui pourrait arriver. Donc on entend parler de menaces nucléaires, de troisième guerre mondiale, on entend parler de flux massifs de personnes qui arriveraient pour fuir le conflit armé. Et donc en effet je trouve toujours les enfants très aidants parce que finalement ils nous resituent, disent bah qu'est-ce qu'on peut faire alors, puisque en fait on peut reconnaître déjà qu'on est tout à fait impuissant et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, mais j'aurais envie moi de renvoyer la question à sa fille, c'est-à-dire de reconnaître son envie d'aider
Et ça, je trouve que c'est quand même assez admirable. Donc, elle a envie d'y travailler, de penser quelque chose, de faire quelque chose de ce qui arrive et de ce par quoi elle est touchée. Et même s'il y a des conditions comme celle-là, par exemple, d'accueillir des Ukrainiens dans sa maison, ça n'est pas possible. Il y a d'autres choses envisageables. Quelles seraient les autres possibilités? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait se rapprocher d'associations qui viennent en soutien humanitaire? Est-ce que ce serait écrire quelque chose sur le sujet, en parler aussi avec les autres élèves dans la classe ou avec des personnes du voisinage? Est-ce que ce serait fabriquer quelque chose?
Je crois que... Orienter l'envie d'aider vers d'autres pistes, autrement dit.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment essayer de transformer l'émotion pour créer quelque chose de façon à ne pas rester dans cette position, oui, qui serait celle de l'impuissance, en fait.
Ce que j'ai perçu, Antoine DeVos, dans la question de Samaël, peut-être que je me trompe, mais c'est aussi une peur de décevoir sa fille. C'est-à-dire, sa fille a cet élan de générosité et dire c'est pas possible. Il y a aussi une peur de décevoir, d'être le parent qui est pas à la hauteur. J'ai entendu ça. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si Samaël est toujours en ligne avec nous.
Oui, je suis toujours en ligne.
Est-ce que je me trompe dans mon interprétation? Il y a aussi ça dans votre question, la peur de décevoir votre fille ou pas?
Eh bien, je vous avouerai que je n'y avais pas pensé, mais maintenant que vous en parlez, c'est possible. Peut-être pas tant de décevoir, mais plutôt vraiment de faute d'avoir une réponse à lui apporter, la peur justement de casser cet élan. Que je trouve beau et
ouais.
Voilà.
Antoine DeVos.
Ouais, moi c'est vrai qu'on peut. Les enfants ont l'avantage du rêve, en fait, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont ils vont voir très grand les choses. Alors les adultes, nous, ben on connaît les contingences, un contexte qui est parfois, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait désirer. Mmh. Maintenant, dire que ça, on peut pas le faire, mais il y a d'autres choses de possibles. On soutient finalement toujours la capacité, le désir d'aider, de réparer, mais on peut fabriquer d'autres choses. Et je crois que c'est aussi intéressant de renvoyer parfois de poursuivre le dialogue avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas dans des situations où l'enfant il dit tiens moi j'aimerais bien ceci, et puis ah bah non ça c'est pas possible, et puis après c'est fini. Alors comment on pourrait soutenir en leur disant mais attends, ça c'est pas possible, mais il y a peut-être d'autres choses de possibles, j'y ai pas encore réfléchi, tu me surprends avec ta question, mais essayons d'y réfléchir, ouais, ensemble et voyons ce qu'il est possible de faire dans la situation qui est la nôtre.
Maggie au standard, bonjour Maggie, je soumettrai votre question à Pauline Leroy. Nous vous écoutons.
Eh bien, moi, je suis une petite fille de 88 ans.
Oui.
Et justement, je me mets beaucoup à la place de ces pauvres enfants qui sont sous les bombes et dans l'angoisse, et enfin, dans la guerre. Et je me rappelle énormément bien, et depuis toujours, de mes souvenirs à moi, lorsque nous descendions à la cave, qu'il y avait cette sirène lugubre et tout cela, et les adultes qui nous emmenaient dans cette cave. Et je me disais, mais est-ce qu'ils sont bien sensés, ces adultes? Est-ce qu'on va pas être... donc, si on est bombardé, si nos maisons tombent, est-ce qu'on va pas être enterrés vivants dans notre cave? J'avais cette hantise.
Et ils ne vous expliquaient pas suffisamment, c'est ce que vous nous dites, Marguerite.
Il y a 80 ans, à peu près, on ne parlait pas aux enfants, on pensait qu'ils suivaient, et, enfin, tout au moins, ce souvenir-là. Et je trouvais que la logique des adultes était un petit peu légère, un petit peu courte, et moi je me disais je pensais pas qu'il devrait m'expliquer, je pensais même pas, mais me rassurer, me dire
bien sûr.
Ça ne durera pas toujours, enfin j'étais très 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 angoissée, je l'ai conservée toute ma vie cette angoisse, avec les possibilités de raisonnement actuelles.
Merci Marguerite pour votre intervention. Pauline Leroy, ça amène une question: est-ce que dans le petit quotidien vous faites de l'histoire, puisqu'il y a des résonance avec d'autres conflits, vous faites beaucoup d'histoires aussi pour expliquer d'où ça vient?
Oui, bien sûr, et puis dans les questions, parce qu'on a proposé à nos lecteurs de nous envoyer leurs témoignages, leurs sentiments et leurs questions, dans les questions qui revenaient, il y avait justement assez souvent cette peur de la Troisième Guerre mondiale, et du coup on leur a rappelé que si tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, c'est parce que la Première et la Deuxième ont été vécues dans les familles, en fait, et que nous, nos lecteurs, ils sont peut-être concernés par leurs grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont, eux, connu une guerre... plus jeune. Donc forcément, on parle d'histoire au sens des manuels scolaires, mais on parle d'histoire familiale aussi. C'est des choses qui se transmettent.
Merci à tous les deux. Antoine Devos, j'avais une dernière question. Il nous reste vraiment une poignée de secondes. Je me dis que ces derniers temps, les enfants ont encaissé une pandémie. Ils encaissent les prévisions apocalyptiques du GIEC. Et maintenant, cette guerre en Ukraine, ça fait beaucoup.
Ah oui, ça fait beaucoup pour eux. Ça fait beaucoup pour les adultes aussi qui les accompagnent et qui. Je crois que ça résonne avec une angoisse qui est inhérente à l'existence humaine, qui est l'angoisse de mort, quoi. Donc ça demande vraiment à pouvoir élaborer à la fois la culpabilité que l'on peut éprouver, mais aussi ce qu'on fait aussi de ces émotions agressives. Oui. Je crois que la reconnaissance aussi de ces émotions agressives dans des situations qui sont parfois difficiles à vivre, c'est aussi nécessaire que de reconnaître le désir de réparer et d'aider. Et je crois que c'est l'un va avec l'autre et que c'est peut-être par là qu'on peut soutenir au mieux les enfants quant à l'élaboration et la digestion de ces moments qui sont très difficiles à vivre.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez répondu en partie, Antoine Devos, à la remarque d'Alice. Ma fille de 10 ans revient de l'école en lui disant il faut tuer Poutine. Comment lui expliquer que ce n'est pas une solution? Voilà, reconnaître la part agressive, ça fait partie du travail. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Emmanuel Macron entre donc en campagne par une lettre à la presse régionale dans les heures à venir. Une autre entrée en campagne tardive, De Gaulle 65.
Première présidentielle de la 5e, au moins un mois avant, ça suffit, dit le général.
On verra cela dans 10 minutes avant le feuilleton consacré au cold case et à l'avocate Corinne Hermann qui traite des cold case. C'est dans 5 minutes, tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est avec une rappeuse que vous parlez d'une chanson aujourd'hui. Rappeuse qui vient de sortir iconique, sa 3e mixtape. Elle s'appelle Joyce Okrou.
Et avant de se lancer dans la musique, elle se destinait plutôt à une carrière dans la finance. Mais en moins de 2 ans, elle a su s'imposer dans le milieu du rap. Milieu très masculin, comme l'est d'ailleurs le nom d'artiste qu'elle s'est choisi.
Je m'appelle le Juice, le jus en français. Donc quelque chose de frais. Le jus, c'est ce qui sort d'un fruit. Après, c'est un mot aussi qu'on utilise dans les pays anglophones pour dire avoir du style, avoir le truc.
Voilà. Vous avez le juice?
J'ai le juice. C'est ça. C'est un fruit mûr et qui produit ce jus si sucré et doux à entendre.
Vous écoutiez quoi, vous, quand vous étiez enfant?
De tout, du reggae, de la soul, du R&B, de la variété française. Un peu de ce que tout le monde écoutait autour de moi, en fait. De ma mère, de mon père. Mon père écoutait beaucoup de variétés françaises et principalement des femmes. C'était du Sylvie Vartan, Patricia Cass, surtout Patricia Cass. Je pense même que c'est de là que me vient mon amour pour les voix cassées qui sont assez graves. Ouais. Et moi-même, j'en ai une. Jeune, j'avais pas une voix grave, mais je sais pas, j'ai développé une voix grave avec le temps.
De ses grands frères à la page du dimanche dans son agenda. Quelques mots d'amis, des poèmes auxquels elle veut croire. C'est juste une enfant malgré les apparences. Seule dans sa chambre, elle rêve encore au prince charmant. Il ne faut pas grandir trop vite. Ne crois pas que tu sois seule à te sentir.
C'est un titre de la chanteuse de R&B Wallen qui a choisi le Juice, Frédéric.
Donna, sorti en 2004, un extrait du 2e album de Wallen qui a passé sa jeunesse à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Tandis que le Juice a passé la sienne à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Et c'est vraiment la première artiste qui lui a donné l'impression de chanter sa propre vie.
Wallen, pour nous, en tout cas en tant que femmes à l'époque, c'était cet artiste qui nous représentait, qui expliquait un peu nos vies de manière délicate, avec des fois la souffrance autour, les joies, le rapport aux garçons surtout. Et c'est la représentation d'une fille qui vivait les mêmes choses que moi dans le même environnement. Et puis en plus, elle était à l'époque avec un autre artiste, Abdelmalik. Donc c'était vraiment aussi une des premières fois qu'on voyait un couple de stars, d'artistes. Et puis la musique que j'ai choisie, Donna de Wallen, c'est la narration d'une jeune fille qui vit en quartier populaire justement.
Elle a 15 ans.
Elle a 15 ans, donc moi à l'époque j'ai peut-être 11-12 ans. Elle va encore au collège, tous les jours elle fait le même trajet. C'est vraiment une belle narration de la vie d'une jeune adolescente.
Elle parle de la réputation aussi.
Ouais. Cette emprise, des fois un peu malsaine, que peuvent avoir les hommes sur la sexualité de la femme. Donc voilà, cette jeune fille qui grandit, qui commence à être en acceptation avec son corps, qui rencontre un homme. Et malheureusement, le fait d'avoir connu cet homme va lui donner une réputation. Et là, on parle un peu d'harcèlement même. Et puis elle passe devant le bloc comme d'habitude, venant des mecs qui tiennent les murs, changement d'attitude. Donna presse le pas, mais pas assez. Pour ne pas entendre Donna, c'est une. Elle s'est fait par une caille.
Son cœur n'est qu'un détail. La cité tue les rêves, poupées.
La cité tue les rêves, poupées. Tue les rêves, poupées.
Cette chanson-là, c'est une chanson que vous écoutiez avec des copines ?
Oui. Oui, on l'a chantée au collège, à tue-tête. C'est comme si c'était une grande sœur qui parle d'une petite sœur, en fait. Elle lui donne des conseils. Donna, il ne faut pas grandir trop vite. Donc, en fait, Donna, c'était nous toutes. C'était un nom pour en nommer nous toutes.
Vous, vous êtes identifiée à la fois au personnage de la chanson et à la chanteuse ?
Et à la chanteuse. On s'identifie aux deux.
Elle a 15 ans et elle va encore au collège.
Donna de Wallen, c'était donc Frédéric, le choix de la rappeuse Le Juice.
Le Juice, qui a Le Juice et qui vient donc de publier Iconique, sa troisième mixtape. C'est un peu comme un album, vous entendrez reparler d'elle.
À demain.
À demain.
Avant-dernier épisode de notre feuilleton avec l'avocate Corinne Herman, spécialiste des cold cases, les affaires non résolues en français. La justice vient d'inaugurer cette semaine à Nanterre un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et non élucidés. Trois juges d'instruction vont s'y consacrer à 100%. Le ministère annonce que 241 affaires non résolues vont être confiées à ces juges spécialisés. Et beaucoup de ces cold cases sont suivis par le cabinet de Didier Seban et Corinne Herman. Après des années d'hésitation de la justice, ce nouveau pôle, c'est l'aboutissement d'un combat, un espoir pour les deux avocats. Reportage et feuilleton signé Corinne Audouin.
2, 3, 4. On va remettre notre liste à jour. On ne sait plus combien de dossiers on a actifs. Quels sont les dossiers qui pourraient monter au pôle? Donc là, je vais recompter dans les meurtres, ou en tout cas le meurtre supposé. Moi, je suis à 19 sur cette page.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vous qui êtes à l'origine de la création de ce nouveau pôle, Didier Seban?
Oui, c'est un combat de 20 ans et nous le demandions parce que nous avons constaté combien la justice ne fonctionnait pas sur ces crimes oubliés, sur ces tueurs en série, combien les victimes étaient laissées pour compte de ces dysfonctionnements. Donc c'est un événement important parce qu'il va y avoir des juges spécialisés qui vont se consacrer uniquement aux meurtres en série ou aux meurtres oubliés, parce qu'ils vont avoir une compétence nationale et ils vont pouvoir sortir de tel ou tel territoire, ce qui est le problème que nous rencontrons souvent avec les juges d'instruction aujourd'hui, qui sont cantonnés à l'affaire dont ils sont saisis. Donc enfin, on va pouvoir respirer, avoir une vue plus complète de la criminalité en France et, nous l'espérons, résoudre beaucoup de crimes oubliés, c'est ce qu'attendent les familles. La plupart du temps, les juges n'ont pas le temps de lire ces dossiers. On peut dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, dans la plupart des cas, l'enquête est abandonnée. On sait bien que Michel Fourniret, il y a beaucoup de crimes pour lesquels il n'a jamais été mis en examen, il n'a jamais été poursuivi. On peut s'imaginer que pour d'autres tueurs, des familles qui attendent la vérité la trouveront si on enquête sur leur parcours de vie criminelle. Et c'est ce que va permettre ce pôle. Normalement, les juges ont la compétence maintenant pour vérifier ce qui peut être imputé ou pas imputé à tel ou tel criminel.
Qu'est-ce qui a empêché pendant toutes ces années d'avoir un juge qui va enquêter sur plusieurs affaires qui semblent connectées. C'est quoi? C'est la culture judiciaire française. On n'a pas de tueur en série en France, ça n'existe pas. Il y a tout ça qu'il a fallu déconstruire.
On nous a dit pendant des années, ce sont les Américains, alors qu'il y a des tueurs en série, il y en a dans le monde entier. En fait, c'est l'idée, il y a un fait qui se déroule quelque part, c'est ce tribunal qui est compétent. Ça a lieu à Châteauroux, c'est le tribunal de Châteauroux. Ça a lieu à Bourges, c'est le tribunal de Bourges. Ce qui va changer avec la création de ce pôle, c'est que un certain nombre de magistrats, un certain nombre d'enquêteurs vont être en priorité et uniquement sur ces meurtres et sur le long cours. Parce que là aussi, les changements successifs de magistrats tous les 2 ans, tous les 3 ans qu'on voit dans tous les tribunaux de France, aboutissaient à ce qu'il n'y ait aucun suivi dans la durée des enquêtes qui devaient être menées sur ces affaires extrêmement graves.
On en a un exemple très concret avec l'affaire Estelle Mouzin. Combien de juges d'instruction dans cette affaire, Corinne?
Dans l'affaire Estelle Mouzin, depuis 2003, il y a 9 juges d'instruction qui se sont succédés. Il y a plus de 50 000 PV aujourd'hui, donc on a une procédure qui est vraiment absolument hallucinante, qui n'est plus consultable par un juge qui démarre aujourd'hui, ce qui est le cas.
C'est un de vos axes de combat actuellement, les scellés en France. Vous avez des fois été témoin de choses invraisemblables.
Quand je rentre dans un dossier, notre responsabilité, c'est immédiatement de demander la préservation des scellés. Moi, je ne veux plus vivre la souffrance que j'ai d'annoncer à des clients que les scellés ont été détruits, que les vêtements de leurs proches ont été détruits. Les parquetiers, on leur dit pas, c'est l'affaire un tel non résolu de meurtre. On va lui dire, c'est le numéro tant, vous êtes d'accord pour que je détruise. Donc le parquetier, il signe. Et on nous détruit des scellés essentiels en matière criminelle. Et on se bat depuis des années pour que les scellés criminels soient séparés des autres scellés. On ne comprend pas d'avoir une conservation des scellés du Moyen-Âge avec une police technique du 21e siècle. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Cela dit, moi je suis une grande optimiste. Il n'y a pas un dossier qui résiste à une bonne enquête. Des fois, dans le dossier papier, on peut trouver des mèches de cheveux, des mouchoirs, où on peut faire de l'ADN. Et sur mes 62 dossiers, c'est 62 affaires qui peuvent être résolues. Peut-être que moi, je les résoudrai pas, mais ces 62 affaires, c'est sûr, elles peuvent être résolues.
Le feuilleton Corinne Audouin avec Corinne Herman, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire et un parallèle entre cette élection et une précédente, 1965. C'est la déclaration de candidature très tardive du sortant De Gaulle à l'époque. Le scrutin était fixé en 65 au 5 décembre et le 9 septembre, le général donne une conférence de presse sur d'autres sujets et il déclare oh, dans 2 mois, il sera bien temps de vous dire si je me présente.
Mais la conférence de presse, elle est consacrée à la politique étrangère. C'est un rite sacré pour De Gaulle. Il parle du monde au monde. Et alors, cette année-là, 65, il a déclenché avec ses partenaires du marché commun une de ces crises comme il les aime. Le sujet en est la politique agricole. Il a décidé de laisser la chaise de la France vide à Bruxelles. Pour bien marquer combien la période est différente de celle d'aujourd'hui, ajoutons que 65, c'est le moment où, selon le général, l'Europe devrait aller de l'Atlantique à l'Oural dans la concorde et la conciliation. Alors au beau milieu de cette conférence de presse souveraine du 9 septembre, une dépêche de l'AFP tombe. François Mitterrand, un revenant, déclare sa candidature au scrutin du 5 décembre. Candidat au nom de qui, de quoi, demande la presse à la jeune Anne Pinjot, dont il est éperdument amoureux. Mitterrand écrit qu'il entend comme un commandement du destin. Il veut tenter une percée stratégique dans une gauche paralysée par l'hostilité historique entre communistes et socialistes en se présentant comme une tierce personne indispensable. Et le PC, de son côté, comprend que Mitterrand, qui n'a pas de structure derrière lui, pourrait servir de prête-nom d'un moment. Mais enfin, derrière Mitterrand, il y a Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu. Alors Dumas, au nom de Mitterrand, avec Maître Bocquer pour le PC, négocie un rapprochement. Pour maintenir le secret, ils ouvrent un dossier commun, divorce Durand contre son épouse. Et faute de solution alternative, les non-communistes de gauche finissent par accepter Mitterrand. Un fin renard est lancé sur la piste du roi Lion.
Et il avance, mais De Gaulle ne veut pas y prêter garde. Son dessein à lui est de se déclarer au plus tard.
Oui, la période est plus calme qu'aujourd'hui et le général se serait plus davantage dans la tempête. Mais bon, il fait fonction de président jusqu'au bout. Il reçoit à l'Élysée son Excellence révérendissime patriarche. Je sais que vous aimez les métropolites et les patriarches des Syriens d'Antioche, par exemple. Ce sont les derniers jours du concile Vatican II. Il reçoit les chefs d'État africain. Il applaudit aussi au lancement de notre satellite Astérix, mais il ne fait pas campagne. Son association de soutien produit des affiches, mais lui refuse d'occuper son temps de parole à la radio-télé.
Alors que Mitterrand fait une campagne de premier ordre.
Alors il n'a en propre que très peu de moyens. 3 lignes téléphoniques dans 4 pièces, rue du Louvre, face à la Grande Poste. L'appartement est équipé d'une Renault hors d'âge. C'est pas grave, hein, parce que un programme commun serait de toute façon impossible à imprimer, tant les soutiens du candidat divergent sur quantité de points, beaucoup plus que les gauches d'aujourd'hui. Mitterrand, rompu depuis 20 ans aux réunions publiques de tout calibre, y excelle. Il ne voit plus que de loin en loin Anne Pinjot. Où est l'époque, il dispose ce petit mot sous son oreiller, où est l'époque où je mettais des mots tendres dans ton assiette, sous ta serviette, maintenant tu vois bien que je ne le fais plus, tire le tutu. Alors un deuxième candidat émerge, le centriste Jean Le Canuet, qui défend l'idée européenne et l'alliance avec les États-Unis. Alors lui, il excelle à la télé, où il apparaît pour la première fois. Je m'appelle Jean Le Canuet, je ne suis pas un héros de légende. Alors, De Gaulle se gausse devant ses partisans qu'il presse de descendre de la stratosphère. Vous me voyez pas arriver devant la caméra en disant « je m'appelle Charles De Gaulle ». Cependant, les intentions de vote en sa faveur au premier tour tombant fin novembre à moins de 50%, il se décide à utiliser son temps de parole fin novembre donc et tout début décembre, pendant que Mitterrand va réunir 35 000 partisans à Toulouse. 35 000 personnes, un chiffre qui nous paraît inouï en 2022.
Résultat, il est mis en ballotage, il doit subir un second tour.
Et oui, il avait pensé que l'élection était une formalité, qu'elle se jouerait sur sa légitimité. Il parlait en père de la nation, ses concurrents parlaient au nom de ses enfants. La campagne s'était faite sans lui, mais il va l'emporter, rassurez-vous Bruno.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. 13h59, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au carré, Mathieu?
Nous allons plonger dans les circonvolutions de notre cerveau pour comprendre pourquoi la nature nous fait tant de bien.
À tout de suite.